Cette convention prévue du 19 au 22 août à Chicago.
Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités via Skype de Montréal au Canada, le journaliste Nad Sevaramen, directeur de publication au sein du groupe mauricien La Sentinelle Limitée, en direct de Dallas dans l'État américain du Texas, Junior Bonpetit, entrepreneur et activiste politique, originaire de la République démocratique du Congo, il est l'initiateur de la plateforme Congolese for Trump. Et avec moi, dans le studio 52 de la VOA, Calvin Dark, directeur de RC Communications, centre de réflexion basé ici à Washington, D.C. Calvin, pour la petite histoire, pas plus tard que jeudi de la semaine dernière, vous preniez part à Washington Forum, qui était alors consacré à la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Je me souviens qu'après l'émission, vous me confiez que le retrait de la candidature de Joe Biden à l'élection de novembre était très imminent en dépit des dénégations du président de 81 ans. Bref, vous n'avez pas été surpris par l'annonce de dimanche. Alors, comment en est-on arrivé là? Les pressions exercées par les ténors de son propre parti comme Nancy Pelosi et Barack Obama étaient-elles devenues intenables? Et d'ailleurs, pourquoi ont-ils tant voulu et obtenu qu'il jette l'éponge alors qu'il a remporté haut la main les primaires démocrates à travers le pays?
Oui, je crois que c'était inévitable. Joe Biden perdait l'élection, selon les sondages, avant le débat. Alors, après le débat, après la réflexion à l'intérieur du Parti démocrate, toutes les voix contre sa candidature venaient de son propre parti. Alors ça, c'était inévitable pour un candidat de gagner sans le soutien fort de son propre pays, parti. Et je crois aussi, COVID... C'était quelque chose, je suis sûr que COVID a contribué à cette décision parce que il a raté presque une semaine de la campagne à cause de COVID. C'est clair qu'on ne peut pas rebondir à 81 ans avec COVID. Il savait que c'était impossible de continuer et gagner parce qu'il faut, souvenir que l'objectif, c'est de gagner l'élection. C'est pas pour sa carrière politique, c'est de gagner.
Très brièvement, êtes-vous satisfait des raisons données par le président Biden hier soir pour expliquer son désistement? A-t-il été direct avec le peuple américain?
Oui, je crois qu'il a parlé beaucoup de son bilan, mais le plus important qu'il a dit, je l'ai fait pour l'unité de mon parti, parce que ça c'était clair. Même s'il croyait qu'il pouvait, sans le soutien de son parti, c'était impossible.
Junior Bonpetit, la prestation jugée calamiteuse de Joe Biden lors de son débat le 27 juin dernier avec Donald Trump, a-t-elle précipité les événements pour ce qui est de ce retrait?
Bien entendu. D'abord, merci pour l'invitation. Oui, le débat a été chaotique, était horrible, une performance très piètre. Et après ces débats, nous avons vu de voix lever les ténors de son parti, comme l'ancien président Barack Obama, Nancy Pelosi, sénateur Jack Schumer. Et c'était clair que le président Biden allait désister parce que ce parti est dirigé par cette oligarchie, ce groupe de leaders de ce parti. Et c'était évident que le président Biden allait désister et jeter le tablier.
Le choix du président Biden a été salué par un nombre de dirigeants mondiaux, de l'Australie à Israël, en passant par le Brésil, dont le chef de l'État, Luiz Inácio Lula da Silva, a dit espérer une élection présidentielle la plus civilisée possible aux États-Unis et que rien ne vienne mettre en péril le symbole de la démocratie. La Russie se déclare, elle, attentive à l'évolution de la situation. En revanche, sur la base de mes recherches faites dans le courant de cette semaine, pas de commentaires notables de la part de leaders en Afrique, hormis ceux de citoyens interrogés dans les rues de certaines capitales du continent. Nad Sevaramen, vous vous trouviez à Washington DC dimanche quand la nouvelle est tombée. Quelles étaient vos premières réactions? Comment vos publications, dont le quotidien L'Express de Maurice, l'ont-elles rapporté? Et comment un tel événement est-il vu d'ailleurs?
Bonjour Jacques, bonjour les invités, merci de me recevoir. Écoutez, ça a été reçu comme une surprise, comme beaucoup d'entre vous, parce que jusqu'ici, Joe Biden maintenait qu'il était en forme, qu'il pouvait commencer et finir la bataille contre Donald Trump. Mais je crois, comme Calvin et Junior l'ont dit, il y a eu un tournant majeur, le débat sur le plateau de CNN le 27 juin, lors duquel débat Donald Trump a fait une bouchée de Joe Biden qui paraissait confus, qui savait pas trop, qui était surpris par la virulence des attaques de Trump. Mais le deuxième tournant, Jacques, je crois qu'on n'en a pas encore parlé, c'est l'attentat manqué du 13 juillet qui a transformé Donald Trump en une icône d'invincibilité, en un symbole même d'immortalité, alors que Joe Biden était touché par un petit virus lié à la grippe. Joe Biden, lui, est sorti indemne, le poing en l'air, après avoir échappé de justesse à une balle tirée par un sniper. Je pense que c'est le deuxième tournant qui fait que tout le monde a salué le courage dont a fait preuve Donald Trump, y compris donc les grandes figures démocrates comme Barack Obama, Biden lui-même, y compris les Clinton. Tout le monde à travers le monde a envoyé des messages de sympathie à Donald Trump. Oui. Et après cet attentat, je crois qu'il était évident que Biden ne faisait plus le poids. Juste rapidement, vu de l'Afrique et de l'océan Indien, ce n'est pas vraiment une question d'âge, Jacques, parce que il faut pas oublier que Donald Trump a 78 ans et Joe Biden 81 ans. Il y a que 3 ans qui les séparent. Mais Trump paraît beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus en forme que Biden. Donc c'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question d'apparence, de force, de vigueur, qui, je pense, a justifié le remplacement de l'octogénaire Biden par la sexagénaire Kamala Harris.
Un attentat raté qui a d'ailleurs entraîné la démission de la patronne du Secret Service, Kimberly Chiodall, soit dit en passant. Alors, le président Biden a donc transmis le flambeau à Kamala Harris, sa vice-présidente, âgée de 59 ans. Depuis le début de la semaine, elle sillonne les états clés du pays en attendant la convention des démocrates du 19 au 22 août à Chicago. Calvin Dark est-elle bien partie pour décrocher l'investiture de son parti et quelle lecture faites-vous du fait que l'ancien président Barack Obama n'a pas encore apporté son appui à celle qui est la première femme vice-présidente, mais aussi première africaine-américaine et première personne d'origine asiatique?
Je crois que la question de Barack Obama, c'est parce qu'il veut éviter l'apparence qu'il dirige tout derrière le parti. Alors c'est pour ça qu'il y avait un peu d'attente de la part de Nancy Pelosi, Chuck Schumer, et je crois que ça va être le même cas pour Barack Obama. Maintenant, c'est clair qu'elle a le soutien des délégués pour l'investiture, pour le Parti démocrate. Et je crois que c'était important au début de la campagne, selon les sondages, plus de 70% des électeurs voulaient une autre alternative. Et Nikki Haley, elle a dit le premier parti de retirer leur candidat de 80 ans va gagner. Et je crois que ça contribue à cet enthousiasme autour de Kamala Harris.
En parlant de sondage, justement, un sondage Reuters Ipsos publié avant-hier montre que Kamala Harris devance Donald Trump de 2 points à 44% d'intention de vote contre 42%. La semaine dernière, c'est-à-dire avant le retrait du président Biden, Madame Harris et Monsieur Trump étaient à égalité à 44% dans une enquête réalisée par le même institut. Junior Bonpetit, comment le camp républicain interprète-t-il ces dernières tendances? Viennent-elles contrarier la dynamique positive dont profitait Donald Trump après justement cette tentative d'assassinat et la convention du Parti républicain qui s'est affichée plus unie que jamais derrière lui?
La stratégie ne change pas, la même voiture, on cherche seulement le chauffeur. On connaît bien les personnages de Kamala Harris, c'est quelqu'un qui a été procureur à San Francisco, on connaît bien son parcours, elle a été une grande défenseure du mouvement LGBT, elle a été la première personne à célébrer les mariages homosexuels à San Francisco, faut connaître la personne, elle a été vice-présidente pendant 4 ans. Il a été chargé de gérer la frontière du Sud. Nous avons vu comment les frontières sont plus heureuses, il y a eu plus de 11 millions d'immigrants. Donc, la candidate Kamala Harris ne nous change pas et nous sommes prêts à gagner ces élections le 5 novembre. 5 novembre prochain et nos stratégies restent les mêmes. C'est un président Trump qui a un bilan présenté et Kamala Harris a un bilan de Biden à défendre. Et nous avons vu la grande différence à l'économie extérieure, nous avons vu la politique extérieure, l'économie interne, nous avons vu l'immigration, nous avons vu le taux d'inflation. Pendant Donald Trump, l'économie était florissante, tout le monde s'est retrouvé et nous avons vu pendant ces trois ans et demi, comment nous souffrons dans nos...
Junior Bonpetit, avec ce changement intervenu chez les démocrates, les républicains ne se sentent pas contraints de repenser la stratégie de campagne?
Non, pas du tout, parce que même le président Trump a dit que ce sera beaucoup plus facile avec Kamala Harris que Biden, parce que le président Biden avait quand même un parcours, et par rapport à Kamala Harris, nous avons vu son parcours est très calamiteux, et ça nous donne beaucoup plus de facilité de gagner ces élections, et ça nous donne encore beaucoup plus d'énergie dans notre stratégie. Oui.
Alors, l'AFP nous propose cette semaine des reportages montrant comment cette joute électorale américaine est suivie en Inde. Il nous raconte que là-bas, des prières sont dites à la fois pour la démocrate Kamala Harris et pour le républicain J.D. Vance, le colistier de Donald Trump. Quelques repères pour vous qui nous suivez. Kamala Devi Harris, née le 20 octobre 1964 à Oakland, en Californie, est la fille d'une biologiste indienne, Shyamala Gopalan, originaire du Tamil Nadu, et de l'économiste Donald J. Harris, natif de la Jamaïque. Du côté de J.D. Vance, c'est son épouse Usha qui a des racines indiennes. La juriste de 38 ans, née à San Diego, en Californie également, est la fille de Krish et Lakshmi Chilukuri, immigrants indiens, venu de l'Andhra Pradesh. Tout cela m'amène à me tourner vers vous, Nad Sivaraman, vous qui êtes de l'île Maurice, où les habitants ont des origines multiples. Quel regard portez-vous sur ce qui peut être qualifié d'ascension de telle communauté ici aux États-Unis? Faut-il y voir un message pour le monde?
Certainement. Je crois que c'est un pas de plus après l'accession de Barack Obama au poste de président de la République. Il faut saluer la nomination, qui n'est pas encore définitive, de Kamala Harris, donc une fille métisse, pour accéder à la plus haute fonction aux États-Unis. Je dois aussi dire que je ne suis pas trop d'accord avec ce que Junior a dit, parce que toute la stratégie des républicains était jusqu'ici centrée sur l'incapacité de Joe Biden, vu son âge. On disait qu'il était confus, on disait qu'il savait pas où il allait, qu'il pouvait pas marcher. Trump a été encore plus loin, il a dit que Biden ne savait même pas s'il était encore en vie. Mais comment maintenant changer de discours, de rhétorique pour cibler Kamala Harris, qui a bientôt 60 ans et qui incarne la jeunesse, qui incarne la diversité d'un monde qui change? Le monde n'est plus le monde que décrit Donald Trump. Le monde a changé. Le monde change. Vous avez vu, Donald Trump lui-même, il a choisi un VP, J.D. Vance, dont l'épouse est indienne. Et c'est pas innocent, c'est pas un choix innocent, Jacques. C'est un choix qui s'inscrit dans la mouvance d'un monde qui change. Dans l'Afrique, au sein de l'océan Indien, nous reconnaissons que le monde change. Et nous voyons en Kamala Harris le symbole même de ce changement, alors que Donald Trump incarne un passé des États-Unis. Voilà.
S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs à la suite de Washington Forum. Ce sera après cette courte pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h au temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Jacques Aris. Christie de retour avec vous dans Washington Forum, édition du G20. Guéri du Covid et sorti d'une semaine de confinement, il s'est adressé à la nation hier soir pour expliquer sa décision. Il a notamment dit vouloir sauver la démocratie et laisser la place à des voix plus jeunes. C'est sa vice-présidente Kamala Harris qui le remplace en tant que candidate. Le candidat républicain Donald Trump continue, lui, d'arpenter le terrain électoral. Il a tenu un meeting de campagne hier soir en Caroline du Nord avant de s'adresser à une association de jeunes conservateurs ce vendredi en Floride. Je vous propose des extraits de deux de vos nombreux commentaires Facebook. Yao Marcelin Kofi d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le président Joe Biden sait se retirer d'une course présidentielle, contrairement à certains de ses pairs africains qui choisissent de mourir au pouvoir. Alphonse Mwaki de Kinshasa en RD Congo. Le monde s'étonne du retrait de Joe Biden. Cela constitue une leçon pour les présidents africains qui changent de constitution pour un troisième mandat et pour ceux qui se maintiennent au pouvoir ad vitam aeternam. Mais je ne pense pas que cet exemple sera suivi parce que les hommes d'État africains n'ont pas la culture d'abandon du pouvoir, même si, dit-il, quand le poids de l'âge le dicte, ils s'y accrochent même quand ils sont malades et sont traînés sur des fauteuils roulants. Le goût du pouvoir les rend présidents à vie. Nelson Mandela a déjà montré l'exemple, mais sans être suivi, partir comme Joe Biden est une sortie honorable et digne. Et voilà pour ces commentaires Facebook. Kamala Harris dispose de moins de 4 mois pour convaincre les Américains face à un Donald Trump fort du soutien quasi total de son parti républicain. Nous retrouvons d'ailleurs nos invités avec moi en direct de Montréal au Canada, l'éditorialiste Nad Sivaramen, directeur de publication à la Sentinelle Limitée, groupe de presse basé à Maurice, via Skype de Dallas dans l'État américain du Texas, l'activiste républicain Junior Bonpetit. Il est le créateur de la plateforme Congolese for Trump. Et à mes côtés, sur ce plateau, l'analyste politique Calvin Dark, cofondateur du think tank RC Communications, qui se trouve ici dans la capitale américaine. Calvin, la potentielle candidate des démocrates, peut-elle faire campagne en mettant en exergue le bilan de l'actuel président, alors qu'elle est elle-même très critiquée pour sa gestion de l'immigration irrégulière dont elle a la charge?
Oui, je crois que c'est une opportunité parce que le temps c'est court. Il n'y a pas 2 ans de campagne comme on est habitué ici aux États-Unis. Je crois que l'immigration, ça va être le dossier le plus compliqué. Mais je crois que c'est une opportunité pour l'économie, pour l'immigration, pour tous les dossiers de dire voilà ce qu'on a fait Biden-Harris. Et maintenant, comme est normal, il faut améliorer sur ça. Alors, elle peut parler de comment distinguer le bilan à l'avenir de Kamala Harris par rapport à Joe Biden. Alors, c'est une opportunité.
Oui, et si Kamala Harris finit donc par être investie candidate, qui choisira-t-elle comme colistier ou colistière? Quels sont les prétendants les plus en vue?
Ça, c'est la course à regarder. Je dois dire, pour moi, mon gouverneur de mon État, Caroline du Nord, Roy Cooper, parce que il peut aider avec la situation en Caroline du Nord, parce que c'est un État conservateur. Mais Obama a gagné en 2008, alors c'est possible. À part de lui, Mark Kelly, le sénateur d'Arizona, Josh Shapiro, le gouverneur de la Pennsylvanie. Je suis sûr que ça va être un homme blanc, mais on a beaucoup des options et je crois qu'elle va annoncer avant le 7 août.
Ah oui. Oui. Donc, attendons pour voir. Je le disais, le républicain Trump, 78 ans, poursuit donc sa campagne, souvent aux côtés de son colistier J.D. Vance, 39 ans. Junior Bonpetit, le retrait du président Biden prive-t-il Donald Trump de son bouc émissaire démocrate préféré avec Kamala Harris en face? Le républicain va-t-il être à son tour dans le collimateur sur la question de l'âge? Nad Sivaramen l'évoquait un petit peu tout à l'heure.
Oui, mais bon, comme on disait, l'âge porte peu, hein, c'est la performance, c'est les résultats, c'est les policies, quels a été les bilans, ça sera une élection bilan par bilan. Parlant d'âge, Kamala Harris n'est pas aussi jeune que cela, elle a 59 ans. Regardez notre vice-président J.D. Vance, et il a à peine 38 ans. Oui, donc l'écart est là, donc nous croyons à l'avenir. Mais pour les 4 prochaines années, nous avons besoin d'un président qui est fort. Nous avons besoin d'un président qui a un bilan présenté, qui a apporté des solutions aux problèmes actuels. Le monde est à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale avec la guerre russo-ukrainienne, ce qui se passe à l'Israël, ce qui se passe en Afrique, au Congo, en RDC, la guerre des M23. Donc il y a pas mal de problèmes sur le plan externe, mais aussi sur le plan interne, l'économie, l'inflation qui ronge les bourses des Américains moyens, et aussi l'économie et la question épineuse de l'immigration illégale et la frontière. Donc tout ça, c'est un tas de problèmes. Nous avons besoin d'un président qui incarne un leadership fort, qui a une vision et qui a un résultat de ces 4 ans passés. Kamala Harris et ne fait pas le poids, et nous allons le battre de pied en pied le 5 novembre prochain.
Rapidement, Junior Bonpetit, pourquoi certains républicains appellent-ils Joe Biden à démissionner de son poste de président après son retrait de la présidentielle?
Mais c'est tout à fait normal, parce que quand vous ne pouvez pas être candidat, et comment expliquer que vous pouvez servir comme président des États-Unis pendant 6 mois? Parce que être président, c'est beaucoup plus lourd qu'être un candidat. Vous voyez, donc il ne peut que démissionner, et nous voyons que ce n'est pas une volonté venue de président Biden lui-même. Il a été poussé, il a été menacé, sinon on évoquerait l'article, le 25e amendement de la Constitution américaine. Donc nous demandons au président Biden, qui a servi ce pays plus de 50 ans, d'avoir l'élégance et le patriotisme de démissionner, de laisser à son colistière le vice-président de gérer pendant ces 6 mois, parce que s'il n'est pas capable d'être candidat, il n'est pas capable d'être président pendant ces moments cruciaux aux États-Unis.
Des milliers de personnes ont manifesté près du Capitole hier pour réclamer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au moment où le Premier ministre israélien prononçait un discours devant le Congrès américain. Benjamin Netanyahou s'entretient ce jeudi avec le président Biden, au programme également des rencontres séparées avec la vice-présidente Harris et le républicain Trump. Kamala Harris n'a pas assisté au discours de Netanyahou en raison d'un voyage déjà prévu, alors qu'elle devait présider la séance, comme le veut le protocole. Y a-t-il des signes qui laissent entrevoir un possible changement par rapport à l'actuelle politique américaine sur Israël, ou peut-être carrément la politique étrangère des États-Unis?
Je crois que Kamala Harris, vu son âge, vu ses origines diverses, a compris que la lutte que mènent ceux qui protestent contre la guerre à Gaza devient de plus en plus importante, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Avant, on avait peur de protester contre les Israéliens. Aujourd'hui, vous voyez, dans toutes les capitales du monde, j'étais à Londres, j'étais à Paris, avant les Jeux Olympiques à Paris, il y a des pro-palestiniens. Et ces pro-palestiniens ne sont plus que des gens des pays arabes. Ce sont des gens qui en ont marre de voir des enfants être martyrisés, être meurtris, être assassinés par des bombes.
Malheureusement, on ne peut pas tout dire. J'ai l'impression que vous faites un tour du monde en ce moment. On y reviendra certainement. C'est une actualité qui va être toujours là.
Mais juste un point pour répondre à votre question. Kamala Harris va rencontrer Netanyahou après le one-on-one entre Biden et Netanyahou. Donc elle va rencontrer Netanyahou. Mais bien sûr, elle devra suivre la politique américaine des démocrates, c'est-à-dire garder Israël comme partenaire. Ça, c'est clair.
Voilà. Merci bien. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos 3 invités, Nad Sivaramen, Calvin Dark et Junior Bonpetit. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télé partenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.